journal présenté par le très concentré Antoine Mercier. Bonsoir.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Inquiétude syndicale sur la diminution programmée du nombre de contrats aidés par le gouvernement. Force ouvrière soutient que plusieurs directions d'agences de Pôle emploi ont déjà reçu des instructions pour geler leur financement. Précision avec Fiona Mogadam dans un instant. Le ministre de l'Intérieur confirme, lui, le retour de la police de proximité d'ici la fin de l'année. Le député Les Républicains Rick Ciotti dénonce le retour d'une vieille lubie de la gauche. Explication avec Camille Magnard. Un drone a déposé hier après-midi un colis dans une cour du centre pénitentiaire de Valence, dans la Drôme. Engin qui a pu se faufiler à travers les mailles du filet anti-hélicoptère qui couvre la cour de promenade. Récit avec Mélodie Pépin. À l'étranger, les nouvelles déclarations de Donald Trump qui a attribué hier la responsabilité des violences de Charlottesville aussi bien aux manifestants d'extrême droite qu'aux contre-manifestants suscitent toujours un profond malaise au sein de son propre camp. C'est Ilan Malka qui suit pour nous cette situation. Et puis au Kenya, l'opposition renonce à porter la contestation dans la rue. Finalement, son leader, Raila Odinga, annonce qu'il va simplement saisir la Cour suprême pour contester la réélection du président Kenyatta. Correspondance avec Bruno Meyerfeld. Enfin, la perspective d'un référendum d'indépendance, ce sera le mois prochain au Kurdistan irakien, continue d'inquiéter vivement Ankara. Le ministre turc des Affaires étrangères met en garde aujourd'hui contre les risques de guerre civile. Dossier suivi par Eric Biegala. Et donc dans le grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
Eh bien nous parlerons de la Corée du Nord ce soir. Malgré la baisse de tension entre Pyongyang et Washington, le régime nord-coréen reste en effet une menace sérieuse pour la communauté internationale qui n'est toujours pas parvenue à la contenir. Alors qui veut vraiment résoudre la crise nord-coréenne? Analyse avec trois invités spécialistes de la Chine, de la Corée et des relations internationales en Asie, François Gaudeman, Antoine Bondaz et Alice Ekman.
À tout à l'heure. La rentrée sociale n'est pas encore là, mais les thèmes qui devraient la structurer, l'animer, sont déjà bien en place. Il y a bien sûr la loi travail, les projets d'ordonnance qui vont être présentés aux organisations syndicales et patronales la semaine prochaine, puis rendus publics le 31 août, qui devrait entrer en vigueur dès le 25 septembre prochain. La CGT, on le sait, a d'ores et déjà appelé une journée d'action et de grève le 12 septembre, journée qui est soutenue par le syndicat Solidaire. Et puis, il y a cette baisse attendue des contrats aidés, qualifiés récemment par la ministre du Travail de coûteux, d'inefficace dans la lutte contre le chômage. Le syndicat Force ouvrière publie aujourd'hui un communiqué dans lequel il juge inquiétante cette volonté du gouvernement de les réduire. Fiona Mogadam, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on sait d'abord des intentions du gouvernement qui ne sont pas complètement éclaircies sur ces histoires d'emplois aidés?
Bon, clairement, le gouvernement veut repenser ce système des contrats aidés. C'est le Premier ministre qui a amorcé l'idée. Il y a une dizaine de jours, dans une interview au Parisien, Édouard Philippe a déclaré « Au lieu de promettre des emplois aidés, il faut mettre en œuvre une vraie politique de formation car les emplois aidés ne débouchent malheureusement pas sur des emplois stables. L'idée du gouvernement c'est donc de miser sur la formation. Emmanuel Macron s'y était engagé dans son programme en promettant 15 milliards d'euros pour l'acquisition de compétences. La ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé la semaine dernière devant les députés qu'un grand plan compétences sera lancé à l'automne. Est-ce que ça veut dire que les contrats aidés vont complètement disparaître? En tout cas pour cette année ils vont être largement diminué. Le gouvernement a annoncé la création de 13 000 contrats pour aller jusqu'à la fin de l'année, en plus des 280 000 qui étaient déjà prévus pour 2017. Mais on est loin des 459 000 contrats aidés de l'an dernier.
Alors sur le fond, le débat est donc déjà lancé. Comment est-ce qu'il se présente?
Alors pour le gouvernement, ces contrats coûtent trop cher pour l'État, entre 2 et 3 milliards d'euros par an. Ils sont peu efficaces contre le chômage. Selon Muriel Pénicaud, seuls 26% de ses bénéficiaires trouvent un emploi à longue durée dans le secteur non marchand. Le député insoumis François Ruffin estime, lui, que faute de meilleures solutions, il faut conserver ce type d'emploi. Il était ce matin chez nos confrères de RMC.
Muriel Pénicaud, elle dit, oui, c'est pas du bon emploi alors, et tout ça. Moi, j'entends, mais on est dans un raisonnement là qui est le même que celui sur les APL. Commencez par faire une autre politique sociale, commencez par faire une autre politique du logement et ensuite diminuer les aides qui existent. Là, c'est on vous supprime l'échelle, mais attendez, on va vous construire un escalier. Mais en attendant, il n'y a plus rien du tout. Donc, on ne peut pas supprimer quelque chose en disant pas ce qu'on va mettre à la place.
Et puis pour Force Ouvrière qui demande le maintien de ces contrats aidés, formation et aide à l'insertion dans l'emploi ne doivent pas s'opposer. Ils sont au contraire complémentaires, juge le syndicat.
Merci beaucoup Fiona Mogadam. Autre projet du gouvernement, le rétablissement de la police de proximité. C'est le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qui précisait ce matin qu'elle serait bien mise en place et ce dès la fin de cette année. Lancée par la gauche, on s'en souvient, en 98, elle avait été abolie cette police en 2003 par Nicolas Sarkozy qui était alors ministre de l'Intérieur. Le député Les Républicains Éric Ciotti dénonce d'ailleurs le retour d'une vieille lubie de la gauche et les syndicats de policiers sont généralement pour le moins sceptiques, Camille Magnard.
Oui, et à peine le débat relancé aujourd'hui par Gérard Collomb, on a l'impression d'entendre à nouveau cette phrase qui avait été lâchée par le ministre de l'Intérieur, donc Nicolas Sarkozy, en 2003. La police n'est pas là pour organiser des matchs de rugby dans les quartiers, mais pour arrêter les délinquants. Voilà qui résume aujourd'hui encore les critiques qui sont adressées à la police de proximité, rebaptisée cette année donc police de la sécurité du quotidien en langue macronienne, là où le candidat Macron dans son programme voulait une police plus proche du terrain, mieux intégrée dans le tissu social des quartiers. Les syndicats de police et la droite en la personne d'Éric Ciotti dénoncent un fiasco inédit et dangereux qui avait, selon le député LR, fait exploser la délinquance entre 1998 et 2003. Les détracteurs de la police de proximité craignent qu'on affaiblisse en hommes et en moyens la police judiciaire, l'investigation et le renseignement, la répression en fait. Sauf que dans son principe, le dispositif n'oppose pas forcément prévention par le dialogue et la présence au quotidien dans les quartiers et répression. Emmanuel Macron a promis de créer 10 000 postes de policiers et gendarmes en plus, mais il veut surtout libérer les agents de la paperasserie qui les coupe du terrain en multipliant les amendes immédiates et en oralisant une partie des procédures. Gérard Collomb n'a encore fait aucune annonce précise sur le sujet et c'est vrai que tant que les budgets et les effectifs n'auront pas été précisés, la police de la sécurité du quotidien va avoir bien du mal à répondre à tous ceux qui la critiquent.
Camille Magnard, un sondage Harris Interactive qui vient d'être publié. Plus de 6 Français sur 10, 62% se disent insatisfaits de l'action d'Emmanuel Macron durant les 3 premiers mois de son quinquennat. Le fait a suscité l'inquiétude des surveillants de prison, déjà confrontés à de nombreuses intrusions de matériel illicite. C'est un drone qui a déposé hier soir un colis dans une cour du centre pénitentiaire de Valence, c'est dans la Drôme. L'engin a pu donc se faufiler à travers ces mailles du filet anti-hélicoptère qui couvre la cour de la promenade. Mélodie Pépin.
Oui, le drone est parvenu à passer entre les filins d'acier suffisamment écartés. Encore faut-il savoir le piloter habilement ou avoir un complice pour guider le pilote. C'est à 15h30 hier que l'engin s'est posé dans la cour de promenade où se trouvent alors une cinquantaine de détenus. Ils se sont d'ailleurs vite emparés du colis, passé de main en main. Son contenu n'a toujours pas été identifié ni retrouvé, malgré les fouilles effectuées à la sortie de la promenade. Le parquet a été saisi, il pourrait s'agir de drogue, de téléphone ou d'un contenu plus lourd, plus dangereux, comme une arme, s'inquiètent les syndicats. Alors c'est une première dans la prison de Valence, qui, rappelons-le, fait partie des prisons les mieux sécurisées en France. Mais la livraison par drone est un phénomène émergent ces dernières années. Il y a 5 mois, un drone détruit a été découvert dans la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. En janvier, 2 téléphones ont été livrés dans une prison du Nord. En 2015, un drone d'1 mètre a lui survolé la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse. Et aux États-Unis, le mois dernier, un détenu a pu s'évader après la livraison d'une tenaille. Le syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA avoue aujourd'hui se trouver impuissant face à cette nouvelle menace, n'ayant pas les technologies pour la contrer. Alors même que les lancers de projectiles ne cessent d'augmenter malgré les barrières de plus en plus hautes autour des prisons. Encore une fois, il faut des moyens et dans un contexte de restrictions budgétaires et de sous-effectifs, la lutte contre les drones livreurs n'est pas encore une priorité, déplorent les syndicats.
Mélodie Pépin, merci. Les réactions se sont multipliées après les nouvelles déclarations de Donald Trump qui a attribué hier la responsabilité des violences de Charlottesville aussi bien aux militants d'extrême droite qu'aux contre-manifestants. Déclaration qui suscite un profond malaise au sein de son propre camp qui pourrait peut-être marquer aussi un tournant dans sa présidence. En tout cas, fait assez inhabituel, les deux anciens présidents américains George Bush, père et fils, publient un communiqué commun dans lequel ils appellent à l'instant les États-Unis à rejeter le racisme, l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes. Ilan Malka.
Oui, au niveau national, c'est le signe que la rupture est véritablement consommée entre Donald Trump et son camp. Au niveau international, le président américain est également lâché par ceux qui semblaient proches de lui. Au Royaume-Uni, Theresa May affirme ne pas voir d'équivalence entre ceux qui expriment des opinions fascistes et ceux qui s'y opposent. Elle appelle à condamner les positions de l'extrême droite. On sait pourtant que la première ministre britannique essaye plutôt en ce moment de se rapprocher de Washington, de s'en faire un allié au moment où elle tourne le dos à l'Union européenne. Mais là, c'en est trop. En France, on s'en souvient, le Front National s'était réjoui de l'élection de Donald Trump. Et bien aujourd'hui, les distances sont prises. Le numéro 2, Florian Philippot, condamne les suprémacistes racistes américains, les traite même de cinglés chez nos confrères de France Info, sans les renvoyer dos à dos avec les contre-manifestants de Charlottesville.
Alors ce drame de Charlottesville est aussi l'occasion pour l'Amérique de revisiter son passé. Les monuments dits confédérés, qui rappellent donc l'héritage sudiste, sont encore nombreux dans le pays. Il n'en resterait plus de 700, dont une petite moitié d'ailleurs dans les seuls états de Géorgie, de Virginie et de Caroline du Nord. Il y a plus d'une centaine d'établissements scolaires qui portent encore le nom de Robert Lee, du président confédéré aussi Jefferson Davis, ou d'autres figures sudistes de cette guerre de sécession. Et aujourd'hui, donc, la pression s'accroît pour effacer ces traces du passé.
Oui, alors cette nuit, ce sont deux statues à la mémoire des confédérés esclavagistes qui ont été déboulonnés à Baltimore suite à des instructions de la municipalité. Un petit peu avant dans la semaine, d'autres monuments avaient été abattus par des manifestants à Durham, en Caroline du Nord, ou encore à Gainesville, en Floride. Le mouvement est donc lancé. D'autres statues vont sans doute tomber dans les prochains jours, à Lexington par exemple. Donald Trump a fait connaître son désaccord. Selon lui, Washington et Jefferson possédaient également des esclaves. Va-t-il falloir détruire les monuments en leur mémoire également, demande le président américain. Aujourd'hui, un éditorial du New York Times lui répond ceci. Quelle que soit la gravité de leurs défauts, Washington et Jefferson sont commémorés comme des héros de la liberté, alors que des personnalités comme le général Lee symbolisent à l'inverse la division et la violence.
Ilan Malka, merci. Au Kenya, l'opposition a renoncé à porter la contestation dans la rue. Son leader Raila Odinga a finalement, après avoir dans un premier temps écarté cette option, annoncé qu'il saisirait la Cour suprême donc pour contester la réélection du président Kenyatta, qu'il estime entaché de fraude. C'est sans doute, Bruno Meyerfeld, vous êtes sur place, une manière de désamorcer de potentielles violences dans le pays.
Le soleil dans les yeux, dans le jardin d'une petite maison de Nairobi, sans un sourire, Raila Odinga a finalement pris la parole. Les mots ont d'abord été très durs. Le leader de l'opposition a continué de qualifier l'élection d'illégale, dénoncé des fraudes massives commises, selon lui, aux yeux de tous. Les Kenyans ne sont pas des moutons qui vont accepter l'égorgement de leur démocratie, a clamé le leader de l'opposition. Mais derrière les mots, les actes n'ont pas suivi. Odinga a décidé de renoncer aux manifestations et à la violence et annoncer saisir la justice et la Cour suprême, une justice qui ne lui a pourtant jamais donné raison dans le passé et qui n'a jamais changé le cours d'une élection au Kenya. Bref, pour le pays, c'est sans doute un début de sortie de crise. Et pour Odinga, 72 ans, leader de l'opposition, une probable sortie de l'histoire. Le résultat aussi de pressions intenses de la communauté internationale, mais aussi des alliés d'Odinga qui voulaient, à tout prix, éviter un bain de sang.
Bruno Meyerfeld, donc à Nairobi. Il devrait y avoir un référendum d'indépendance dans un peu plus d'un mois au Kurdistan irakien. Et Ankara a déjà qualifié ce projet d'erreur, de menace pour l'intégrité territoriale de l'Irak. Aujourd'hui, le ministre turc des Affaires étrangères a encore haussé le ton. Il met en garde contre, dit-il, les risques de guerre civile. Éric Biegala, est-ce que la Turquie a les moyens ou souhaite empêcher ce scrutin de se tenir ?
Alors l'empêcher formellement, non, elle ne le pourra pas évidemment. Pas plus que l'Iran d'ailleurs voisin, ou le gouvernement de Bagdad, tous trois fermement et ouvertement opposés à la tenue de cette consultation et surtout à la perspective qu'elle débouche sur la partie de l'Irak et la naissance d'un État kurde sur leurs frontières respectives. La Turquie, comme l'Iran, dispose l'une comme l'autre d'importantes minorités kurdes et l'émancipation politique des Kurdes irakiens pourrait bien donner à ces minorités-là des envies d'indépendance, elles aussi. Alors, sur ce chapitre, Turcs et Iraniens, par ailleurs opposés, notamment sur le dossier syrien, font cause absolument commune. Hier, c'est une première, le chef de l'armée iranienne, le général Mohamed Bagheri, est arrivé à Ankara pour une visite de 3 jours. Il doit rencontrer le président Erdogan ce mercredi. Au programme des entretiens, la question kurde, justement, et et notamment le référendum des Kurdes irakiens en septembre. Mais si la Turquie ne pourra pas formellement empêcher le scrutin de se tenir, elle dispose pourtant de moyens de pression non négligeables sur le Kurdistan d'Irak. Complètement enclavé et sans accès à la mer, ce Kurdistan irakien, potentiellement indépendant, ne pourra effectivement l'être, indépendant, qu'à la condition d'être aussi économiquement viable. Or, sa seule richesse, c'est son pétrole, découvert depuis 2003. Mais pour le vendre, ce pétrole, il faut encore pouvoir l'exporter, et cela signifie l'envoyer vers le port turc de Ceyhan. C'est d'ailleurs la Turquie qui a construit, il y a 2 ans et demi, l'oléoduc permettant d'exporter le pétrole kurde. C'est elle également qui peut décider d'en fermer les robinets, asphyxiant économiquement le futur État kurde.
Eric Biegala, merci. La météo demain jeudi, le temps sera couvert au nord de la Loire, plus estival ailleurs, des températures demain matin de 14 à 21 degrés du nord au sud, édition réalisée avec Caroline Beneteau. Et le prochain journal est à 22h avec Sébastien Berriot.